Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Nature sauvage, Québec oiseau et Protégez-vous. Au programme, qui cogne au fond des bois. Favoriser la biodiversité et de beaux matins. Bonne écoute.
Le pic maculé, qui cogne au fond des bois? Un texte de Michel Leboeuf, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55. Le printemps, le retour des beaux jours, au loin vous entendez un pic frappé sur un tronc d'arbre. Comment savoir de quelle espèce il s'agit? Ce n'est pas toujours chose facile, sauf dans le cas du pic maculé. En effet, son tambourinage saccadé est caractéristique. D'abord rapide, il ralentit vers la fin, avec des coups quelquefois portés à des intervalles irréguliers. Un pic bruyant. En période de reproduction, les autres manifestations sonores de ce pic sont aussi fréquentes que variées. Grincement nasillard, cris ressemblant au miaulement d'un chat, appel plaintif. La discrétion n'est pas le propre du pic maculé, c'est le moins qu'on puisse dire. Au Québec, on rencontre surtout ce pic dans les basses terres du Saint-Laurent, là où les forêts feuillues ou mixtes sont parvenues à maturité, mais ils s'aventurent également plus au nord. Dans les peuplements, comportant d'importantes proportions de bouleaux blancs et de peupliers faux-trembles, deux arbres souvent utilisés pour sa nidification. Le pic maculé niche dans un trou excavé dans un spécimen de bonne taille, en moyenne d'au moins 22 cm de diamètre, ou bien dans un arbre malade, sénescent ou aux prises avec un champignon qui en affaiblit le bois de cœur. Son nid est situé à des hauteurs très variables, allant de 1,7 mètres du sol jusqu'à parfois 23 mètres dans la canopée. Sphyrapicus varius, comme d'autres espèces de pics qui creusent pour faire leur nid, fait œuvre utile. Ses cavités seront d'ordinaire réutilisés dans les années subséquentes par des mésanges, des sittelles, des hirondelles et même des écureuils volants. Une fois l'incubation terminée, la femelle pond en général 5 ou 6 œufs. Mâle et femelle s'occupent tous deux de nourrir les petits pendant leur séjour au nid d'environ un mois. Puis, pour quelques semaines encore, après leur premier envol. Un régime équilibré. Percé un jour, percé toujours, le pic maculé ne s'attaque pas seulement aux arbres pour nicher, il fore aussi l'écorce pour s'alimenter. Mais alors les trous sont peu profonds et minuscules et lui servent à extraire la sève qui en coule. Le liquide fournit des sucres au pic et attire du même coup des insectes qu'il capture également pour faire cette fois le plein de protéines. Pour se repaître de sève, le pic maculé dispose d'une langue adaptée à la tâche, dont l'extrémité est munie de poils rugueux. Il complète son menu en se gavant d'autres types d'insectes attrapés au sol ou dans le couvert forestier, ainsi que de petits fruits en saison. Au contraire des pics mineurs et chevelus, le pic maculé ne visite pas les mangeoires remplies d'arachides, cependant il goûtera peut-être à la sève du bouleau du jardin. Peu discret dans son habitat, le pic maculé est à son tour la proie de divers prédateurs, dont la corneille d'Amérique, des rapaces forestiers diurnes tels la buse à épaulettes et la petite buse, ou nocturnes, comme la chouette rayée. Or, on ne craint pas pour l'espèce. Selon les derniers recensements, ses effectifs auraient doublé entre 1990 et 2014. Le pic maculé et le pic flamboyant sont les deux seules espèces de pic qui fréquentent le territoire québécois sans y résider durant toute l'année. La population entière de pics maculés migre en hiver sous des latitudes plus clémentes, notamment sur la côte sud-est des États-Unis et au Mexique. Le pic maculé appartient au genre Spirapicus, aussi appelé groupe des pics entailleurs. Ces pics, qui se nourrissent de la sève des arbres, se répartissent en quatre espèces en Amérique du Nord. Les trous percés sur les troncs par le pic maculé, des trous de quelques millimètres de diamètre, alignés en rangées bien ordonnées, sont aussi caractéristiques que son tambourinage et trahissent la présence de l'espèce dans les bois où il habite. La sève s'écoulant des excavations du pic sur les troncs sert de nourriture à de nombreuses espèces forestières, dont les papillons, les mouches et les guêpes, ainsi que des petits mammifères comme les écureuils et d'autres oiseaux, principalement le colibri à gorge rubis. Chez le pic maculé, distinguer la femelle du mâle est aisé. Chez ce dernier, la gorge est rouge, comme le front, alors qu'elle est blanche chez la femelle. C'était le pic maculé, qui cogne au fond des bois? Un texte de Michel Leboeuf, paru dans Nature sauvage, printemps 2022, numéro 55.
Favoriser la biodiversité dans un jardin d'oiseaux. Un texte de Christian Chevalier, paru en été 2021, volume 32, numéro 4, dans le magazine Québec Oiseaux. Lorsque vient le temps d'aménager ou réaménager un jardin, pourquoi ne pas privilégier des fleurs indigènes? En recréant ainsi un habitat naturel pour attirer les oiseaux et répondre à leurs besoins, il sera possible de contribuer du même coup au maintien de la biodiversité propre au Québec. Pour les jardiniers friands de nouveautés, le marché de l'horticulture déploie une offre très diversifiée de cultivars et d'hybrides de fleurs vivaces, parfois très spectaculaires. Mais ces végétaux ornementaux, qui répondent à certains critères esthétiques bien définis, ne sont pas nécessairement reconnus pour créer un milieu de vie optimal pour les oiseaux et les insectes propres à notre environnement. Soutenir la biodiversité. Au Québec, plus de 1700 espèces de fleurs indigènes ont évolué ici et se sont adaptées aux conditions de leur environnement. Au fil de milliers d'années, une biodiversité s'est installée et des relations étroites se sont créées entre les végétaux, les insectes et les oiseaux. Pour certaines espèces, ces interactions sont même essentielles à leur survie. C'est le cas de la chenille du papillon monarque qui compte exclusivement sur l'asclépiade pour se nourrir. Plusieurs études ont démontré que la flore indigène répond davantage aux besoins essentiels des oiseaux et des insectes que les plantes non indigènes. En 2006, l'Université du Delaware a entrepris une étude visant à démontrer l'impact des divers types de plantes sur les populations de papillons et d'oiseaux en milieu urbanisé. Les données ont été recueillies dans 6 paires de jardins de la même région, 6 traditionnels et 6 indigènes. L'analyse a révélé que les jardins à forte prédominance de plantes indigènes abritaient une plus grande population de chenilles et d'oiseaux et présentaient ainsi une plus grande diversité. Au cours de l'étude, 8 fois plus d'oiseaux d'espèces susceptibles d'être menacés régionalement ont été observés dans ces jardins. Les chercheurs ont pu confirmer que la plantation d'une flore indigène favorisait grandement la biodiversité dans les milieux urbains et périurbains. De son côté, dans le cadre d'une étude du succès de nidification de la mésange de Caroline dans différents jardins où des nichoirs avaient été installés, le Smithsonian Conservation Biology Institute a constaté que les aménagements à dominance de plantes ornementales sont comme des déserts alimentaires pour les oiseaux. En plus du suivi d'une centaine de nids, les chercheurs ont compilé des observations sur le nombre d'insectes trouvés sur les plantes indigènes et ornementales, ainsi que leur consommation par les oiseaux. Les résultats ont démontré clairement que la prédominance de plantes ornementales entraînait une baisse significative des populations d'insectes et, par conséquent, de mésanges, qui ont de grands besoins alimentaires, chacune devant capturer plus de 400 chenilles par jour pour nourrir ses petits. Le succès de nidification était alors assuré seulement si les jardins avaient au moins 70 % de plantes indigènes. Avantages des indigènes. Plusieurs raisons devraient nous inciter à privilégier des vivaces indigènes dans notre jardin. Offrir davantage de nourriture aux oiseaux, qu'ils soient insectivores, granivores ou frugivores, ceux-ci utilisent une diversité de vivaces indigènes dans la nature pour combler leurs besoins alimentaires. Ils seront prompts à fréquenter notre jardin s'ils y trouvent les plantes de leur habitat naturel. Procurer du nectar et du pollen en quantité. Il a été démontré que les fleurs indigènes peuvent soutenir de 2 à 35 fois plus d'insectes pollinisateurs que les variétés ornementales. Fournir aux colibris une plus grande réserve de nectar, car les fleurs ornementales, surtout celles à fleurs doubles ou triples, sont moins accessibles et produisent moins de nectar. Améliorer l'état de santé général des jardins et des potagers, car la cohabitation d'une diversité d'insectes permet un meilleur équilibre entre insectes bénéfiques et ravageurs. Contribuer à maintenir la biodiversité par la propagation de plantes indigènes dans les milieux environnants, par leurs graines disséminées par le vent, l'eau ou la faune. Des indigènes bien adaptés à notre jardin. Pour créer un habitat naturel, il faut d'abord s'intéresser à la flore de notre région et sélectionner une association de vivaces indigènes qui trouveront dans le jardin les conditions qu'elles affectionnent. Il est important de choisir des plantes qui procurent une source de nourriture pour les oiseaux, nectar, pollen, graines comestibles et qui attirent larves et chenilles, ou celles qui procurent une source de matériaux pour les nids. Approvisionnement éthique. L'approvisionnement en fleurs indigènes est assez facile aujourd'hui, car un bon choix est offert dans les jardineries. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à s'informer de la provenance des plants pour s'assurer qu'ils ont été produits selon des normes éthiques. Plusieurs espèces sont faciles à cultiver à partir de leurs semences. On peut prélever des graines dans la nature pour autant que l'espèce est abondante et qu'elle n'est pas menacée. On trouve aussi sur le marché la gamme de semences de fleurs indigènes Marie-Victorin qui offre plus de 50 espèces parfaitement adaptées à notre climat. C'était « Favoriser la biodiversité dans un jardin d'oiseaux », un texte de Christian Chevalier, paru en été 2021, volume 32, numéro 4, dans le magazine Québec Oiseaux.
Beau matin. Que vous cherchiez une cafetière à espresso manuel ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer. Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023, dans le magazine Protégez-vous. Il n'y a rien de mieux qu'un bon café pour commencer la journée. Pour pouvoir l'apprécier, il faut toutefois trouver un appareil qui permet d'obtenir un café bien équilibré, aux arômes agréables et à la mousse créma, onctueuse. Nous avons mis à l'épreuve 34 modèles, dont 21 cafetières manuelles et 13 automatiques. 5 baristas et torréfacteurs ont goûté à l'aveugle les cafés produits par chacune des machines. Nous avons également évalué divers aspects techniques des cafetières, comme leur ergonomie, leur rapidité, le bruit qu'elles produisent ainsi que la facilité à nettoyer leurs composantes. Au-delà de la performance, vous cherchez certainement un appareil fiable et facile à réparer. Nous avons donc sondé quelques 3000 répondants issus du panel, la communauté de consommateurs de Protégez-vous, afin d'identifier les marques les plus fiables et les bris les plus fréquents. Un groupe de 5 réparateurs nous a également aidés à évaluer la réparabilité des cafetières, de même que les coûts associés. Conclusion, les bris sont assez fréquents, mais il y a moyen de remettre ces appareils en état, à condition d'y mettre le prix. La dépense peut être justifiée si vous êtes satisfait de votre cafetière et que vous désirez la garder longtemps. Pour ce test, Recyc Québec a collaboré à l'élaboration de la cote de réparabilité de Protégez-vous, destinée à contrer l'obsolescence et à favoriser le prolongement de la durée de vie des produits, notamment par la réparation. Vous trouverez les évaluations de toutes les cafetières testées en ligne. pv.ca/cafetière. Manuel ou automatique? Une cafetière manuelle vous permet de contrôler plusieurs paramètres, dont la force de compression et le temps d'extraction du café. Vous pouvez ainsi produire des espressos qui répondent au goût de chacun. Cela exige toutefois une série de manipulations. Remplir le filtre, compresser le café, etc., mais surtout une bonne connaissance de la machine. Il est important de prendre le temps de tester plusieurs combinaisons de café, mouture, temps d'extraction et force de compression, avant d'obtenir le café parfait. Les cafetières manuelles sont en général moins chères que leurs cousines automatiques. Si vous préférez la simplicité, optez pour un appareil automatique qui calcule lui-même la quantité de grains requise pour chaque tasse, les moûts, compresse le café et fait couler ce dernier selon le volume d'eau désiré ou pré-programmé. Ces machines font aussi elles-mêmes des cycles de rinçage et de nettoyage. Les cafetières automatiques produisent plus rapidement les cafés que les modèles manuels. Cependant, la facilité et la rapidité ont un prix. Les meilleures cafetières automatiques se vendent entre 1200 et 2395 $. Seul un de nos bons choix affiche un prix sous la barre des 1000 $. Les dimensions de l'appareil. Les machines à espresso sont généralement volumineuses, en particulier les modèles automatiques. Ainsi, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace sur votre comptoir et de dégagement sous l'armoire, si nécessaire, pour remplir les réservoirs d'eau, de grains et de lait. Le réservoir d'eau. Si vous placez la cafetière sous les armoires, privilégiez un modèle équipé d'un grand réservoir pour faire plusieurs cafés sans avoir à le remplir. Les réservoirs des appareils testés ont une capacité qui varie entre 1 et 3 litres. Certaines machines pourraient donc produire environ une trentaine d'espressos, alors que d'autres pourraient en faire près de 100. Les cafetières dotées d'un réservoir d'eau situé à l'avant ou sur le côté sont plus pratiques que celles qui ont un réservoir qu'il faut enlever et replacer par le haut. 4 de nos recommandations possèdent un réservoir se trouvant à l'avant. Le moulin intégré. Toutes les cafetières automatiques sont munies d'un moulin intégré. Du côté des machines manuelles, c'est plus rare. Les modèles que nous avons évalués offrent de 5 à 16 options de mouture. Le mousseur ou la buse. Si vous êtes un adepte de latte ou de cappuccino, procurez-vous un appareil doté d'un mousseur capable de produire une mousse généreuse, à bulles fines et aérées. il existe plusieurs systèmes. Buse traditionnelle sous laquelle vous placez une tasse à lait ou encore mousseur automatique à tube ou avec contenant. Avec un mousseur automatique qui comprend un contenant, il vous suffit de remplir le réservoir à lait. La cafetière mousse ce dernier et assemble les cafés elle-même. Parmi nos recommandations, les laits moussés par les cafetières automatiques ont été moins appréciés de nos dégustateurs que ceux des appareils manuels. En choisissant une cafetière manuelle, vous pourriez mieux contrôler le moussage du lait. Vous écoutez présentement « De beau matin », que vous cherchiez une cafetière à espresso manuelle ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer. Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous. Les porte-filtres pressurisés. Pour obtenir un délicieux espresso avec une belle créma, vous devez respecter certaines étapes comme choisir la bonne mouture, bien doser le café dans le porte-filtre et le compresser adéquatement. Si vous en êtes à vos premières armes comme barista, un porte-filtre pressurisé deviendra probablement votre meilleur allié car il permet de corriger toute erreur dans le dosage ou la compression du café ou dans la finesse de sa mouture en créant une forte pression. 4 de nos recommandations viennent avec des porte-filtres pressurisés. La rapidité et le système de chauffe. Le temps moyen pour faire couler 2 cafés consécutifs varie énormément d'une cafetière à l'autre. Il va d'environ 1 minute et demie à près de 5 minutes, ce qui comprend le temps de préchauffage. La rapidité de l'appareil dépend en partie de son système de chauffe. En général, les cafetières, automatiques comme manuelles, destinées à un usage domestique sont dotées d'un système thermobloc ou thermocoil qui chauffe l'eau sur demande et rapidement. Certaines des cafetières manuelles évaluées possèdent pour leur part une bouilloire qui peut chauffer un plus grand volume d'eau. Ces systèmes prennent du temps à chauffer, mais ils offrent une meilleure stabilité de température que les thermoblocs et thermocoils. Les appareils qui comprennent une bouilloire sont généralement plus chers, mais les bris sont moins fréquents, selon les experts consultés. Parmi nos recommandations, la Gaggia Classic Pro, les 2 Lelite et la Rancilio sont dotées d'une bouilloire. Fiable et réparable. Notre sondage de fiabilité montre que les cafetières à espresso brisent assez souvent, notamment en raison de la complexité de leur mécanisme interne et de leur utilisation régulière. En effet, les cafetières manuelles ont un taux de fiabilité moyen de 68 % et les automatiques de 60 %. Heureusement, la plupart des cafetières sont facilement réparables. Si la cote de réparabilité diffère d'un modèle à l'autre, c'est surtout en raison du coût de réparation et de la facilité à trouver un réparateur qui connaît le produit. Cette année, nous avons réévalué le coût des réparations et, sans surprise, les prix ont augmenté, particulièrement pour des réparations de moulins. Notre panel était composé de réparateurs d'Ital Café, de Service Café, de Café Express, de la machine à café et d'un autre commerce qui souhaite garder sa participation anonyme. Cette année aussi, certains de nos réparateurs nous ont indiqué qu'ils n'avaient plus accès aux pièces de Breville. Le fabricant offre tout de même un service de réparation, plus cher selon les réparateurs, par le biais d'un de ses centres de service à Toronto ou à Calgary. Les fuites d'eau sont assez fréquentes et peuvent être causées par plusieurs éléments abîmés ou brisés. Joints défectueux, embouts de valve brisés, tuyaux percés, etc. Lorsque les joints d'étanchéité sont en cause, cette réparation coûte en moyenne 70 $ pour une cafetière manuelle et environ une 100 $ pour une automatique. vous devrez débourser en moyenne 130 $ pour faire changer la pompe défectueuse ou brisée de votre appareil. Notez que les pompes des cafetières Jura font rarement défaut. Réparer un moulin brisé vous coûtera environ 170 $, mais pour certains produits, les prix peuvent s'élever jusqu'à plus de 600 $. Les moulins des appareils Jura coûtent nettement plus cher que ceux des autres marques. Selon notre panel de réparateurs, il arrive que les gens qui utilisent du café très gras pensent que leur moulin est brisé, alors que ce dernier ne nécessite qu'un bon nettoyage. Si vous égarez ou brisez votre porte-filtre, vous pourrez généralement en racheter un chez un réparateur ou chez le fabricant, à un prix variant entre 10 et 60 $. Pour un même modèle, les prix varient beaucoup d'un endroit à l'autre. N'hésitez donc pas à magasiner un peu. Les cafetières de marque Jura coûtent cher à faire réparer, peu importe le bris en question, et elles présentent un taux de fiabilité assez moyen de 57%. Malgré tout, cela n'empêche pas les utilisateurs d'être très satisfaits de cette marque, en partie parce que la performance de ces appareils est excellente. En effet, 90% des gens recommanderaient ce nom. Par ailleurs, l'appréciation des cafetières de Longhi varie puisque leurs performances sont assez inégales, ce que les réparateurs nous ont confirmé. Assurez-vous donc de choisir un modèle faisant partie de nos recommandations. C'était « De beau matin, que vous cherchiez une cafetière à espresso manuel ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer ». Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Jocelyne Langevin et Robert Chartier à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.